Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, quelle émission, quelle semaine nous avons passé avec la libération des otages, avec ce miracle, comme on dit en hébreu, comme vous dites, vous les maîtres, miracle galoui, c'est-à-dire voir les otages être libérés le même jour, jour pour jour, 2 ans après leur enlèvement, c'est incroyable ce qu'on a vécu les uns et les autres. Et alors, après les fêtes d'automne, et donc après Simchat Torah, on recommence notre étude qui ne s'arrête jamais. On est maintenant à Bereshit, tout le monde le sait, c'est la Genèse, et c'est aussi la création de l'homme, et de l'homme et de la femme. Zahar Venekeva. Et c'est de ça que vous voulez nous entretenir ce soir et nous amener à réfléchir.
Exact, exact. On est en effet dans le récit extraordinaire de la création de l'univers. Et comme vous dites, on a vu vraiment quelque chose qui s'appelle Ashgacha Pratit, c'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu, comment le créateur de l'univers dirige son monde. Et comme l'aurait dit d'ailleurs, et c'est ce qu'un maître avait dit à l'époque, c'était le Briskorov, il avait dit, on voit de temps à autre ce qu'on appelle des clins d'œil du créateur de l'univers, comme s'il était là en train de nous dire, mais regardez, si vous aviez un petit doute, vous voyez, je suis là. Et même si nous avons passé par des moments extrêmement difficiles, et je dis nous, même si en vérité, nous en tant que membres du peuple, mais on ne peut même pas imaginer toutes les personnes qui l'ont vécu dans leur chair et qui le vivent encore à tous les niveaux d'eux-mêmes, il faut être modèle HM, dire merci. Merci et prier pour que maintenant le quotidien se conjugue au plus que parfait dans tous les domaines. Alors justement, on reprend et on parle de la création. De la création et puis on parle du couronnement de la création, c'est-à-dire de l'être humain. De l'être humain, et justement, quand la Torah nous parle de la création de ce Adam, de ce qu'on appellerait cet être humain primordial, la Torah nous dit au début « Zachar Unekeva bara otam ». Eh bien, Dieu le crée masculin et féminin. C'est intéressant parce que on va voir arriver par la suite le Adam, mais dans la dimension du monsieur, de l'homme. Non pas de l'humain, de l'homme, le monsieur, le masculin, et puis après on va voir Chava, Ève, qui va arriver, et la femme. Mais au début, on nous parle justement de Zachar Unekeva, c'est-à-dire la Torah est en train de nous rappeler que tout d'abord il y a dans chaque être humain cette double dimension. Alors on sait que chez le masculin elle est beaucoup plus prononcée, mais il y a une partie de féminin présente chez lui et réciproquement, et disent nos maîtres, parce qu'on ne pourra pas véritablement appréhender l'autre si on n'a pas une parcelle de cet autre qui est présente chez nous. Et c'est intéressant de voir qu'en effet dès le début la Torah nous montre qu'il va y avoir en effet cette différence, cette belle différence entre le masculin et le féminin, et qu'on va avoir besoin de percevoir un tout petit peu ce qu'est le féminin pour l'homme et réciproquement, mais que ça fasse partie aussi de nous pour réussir à construire ce qui va créer l'humanité, c'est-à-dire un couple, une famille et tout ce qui s'ensuit. Et puis aussi cette dimension-là de Zachar Unekeva, c'est-à-dire on est face à face, on est dans une relation qui est complètement horizontale, et c'est tellement important de le dire dès le début parce que l'histoire va nous montrer que lorsque l'homme, le monsieur, le masculin va l'oublier, malheureusement, il va construire un monde de relations de pouvoir, un monde de relations dans lequel il va être dans des rapports de force.
Alors, rapport de force, des fois, c'est nécessaire. Souvent, on l'utilise un peu trop, j'imagine, dans nos relations, au moins dans nos relations avec nos plus proches. Mais c'est quoi les conséquences ?
Bien justement, le rapport de force, lorsque c'est l'élément que l'on utilise pour pouvoir prendre le pouvoir, c'est bouleversant parce que ça veut dire que le jour d'abord le rapport de force sera inversé, les choses risquent de changer. Et puis ça révèle qu'au fond, on est dans un désir de domination Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il faut évidemment, à partir de là, comprendre ce qui va se jouer dans cet être humain, aussi bien au féminin qu'au masculin. Et là-dessus, il faut déconstruire un certain nombre de choses. Je crois que c'est quand même un point que l'on oublie trop souvent. Comment déconstruire la vision que l'on a de l'homme et de la femme? Vous savez, cette démarche dans laquelle on va dire « Oh, tous les hommes sont ceci, toutes les femmes sont ceci ». Oui, il va y avoir une singularité, une spécificité, j'ai presque envie de dire structurelle, du masculin et du féminin. Vous savez, le Talmud, à un moment, va nous dire que la femme a l'esprit léger à l'image d'un oiseau qui volait de branche en branche. Et nos maîtres de dire oui, parce que c'est cette légèreté à ne pas entendre, évidemment, de manière péjorative, mais au contraire, cette capacité d'aller d'une chose à l'autre et de savoir, en effet, gérer tellement de choses à la fois, ce qui va être une des spécificités du féminin, même si on retrouve ça aussi parfois chez certains hommes, mais accepter cette dimension de singularité et l'exploiter et la développer. Ça va être déjà le premier point. Mais il va y avoir aussi quelque chose de passionnant. Nos maîtres disent qu'il y a trois grands désirs dans l'univers. Il y a le désir de ce qu'on appelle le Satan, c'est-à-dire les énergies négatives pour l'humain. Il y a le désir de la pluie pour la terre. Il y a le désir de l'épouse pour son époux. Mais le terme qui est utilisé là, c'est le terme tchouka. Tchouka est un terme très rare. Et nos maîtres vont nous expliquer que le désir dont on parle ici, il est incroyablement beau. Le désir du Satan, de cette dimension négative vis-à-vis de l'humain, c'est le désir dans la confrontation qu'il va avoir avec lui, que l'humain révèle sa force, sa grandeur et son désir d'aller vers le haut. Lorsque, en effet, quelque chose nous pousse à aller vers le bas, c'est un moment de test par rapport à ce que l'on veut réellement. La pluie vis-à-vis de la terre. La terre, eh bien, il y a des milliers de graines qui sont à l'intérieur. Et la pluie a un désir. C'est de faire en telle sorte que la terre puisse faire émerger ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et nos maîtres de dire qu'il va y avoir en effet, dans la relation entre l'homme et la femme, quelque chose de particulier. C'est ce désir profond que va avoir le féminin de pousser le masculin à faire émerger tout ce qu'il peut exprimer dans ce monde. Qu'on soit bien clair, ça ne limite pas la femme à juste être là comme étant quelqu'un qui va pousser l'homme à donner le meilleur de lui-même parce qu'elle-même, elle a son propre projet, elle se développe, mais on nous montre qu'il y a ici une dimension extraordinaire. C'est qu'au-delà de son propre projet à elle, la femme n'a qu'une envie. C'est de faire en telle sorte que le masculin, que l'homme puisse se développer au maximum, qu'il puisse faire émerger, comme si au fond on était en train de nous rappeler que peut-être nous les hommes, eh bien on pourrait avoir une forme de paresse, capacité assez incroyable de se contenter de ce que l'on est et de ne pas aspirer vers plus. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle prend sa source dans un enseignement du Zohar, de la Kabbale, car vous savez que le lieu dans lequel l'enfant est porté pendant 9 mois, en français, l'utérus, eh bien, en hébreu, est appelé makor. Makor, c'est la traduction du mot makor, c'est la source, l'origine. Et les maîtres du Zohar font remarquer que ce terme a une valeur numérique, comme tous les mots hébraïques. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Mais la valeur numérique du mot makor, qui veut dire la source de tout, eh bien, c'est la même valeur numérique qu'un autre mot, qui est le mot ratson, qui veut dire volonté. Et de là, ils nous apprennent qu'en effet, celle qui est capable de faire émerger cette volonté, de faire en telle sorte qu'elle puisse pousser l'individu à aller vers le meilleur de lui-même, c'est la femme. Et on le voit d'ailleurs dans la relation qu'elle a avec l'enfant. Alors évidemment, ça nous amène à mieux comprendre ce verset de Zachar ou Nokeva, masculin, féminin, oui, côte à côte, dans une vraie horizontalité, mais avec des spécificités, avec des particularités, avec en effet, pour la femme, cette capacité, au-delà de son propre projet, et j'insiste là-dessus, au-delà de son propre développement à elle en tant que telle, cette force qu'elle a d'initier quelque chose d'incroyable. Et on le voit d'ailleurs particulièrement bien avec celui qui va être un des plus grands maîtres de la tradition juive, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, maître parmi les maîtres, géant parmi les géants. Eh bien, lorsque Rabbi Akiva n'est pas encore dans le monde de l'étude, c'est celle qui va le croiser, qui s'appelle Rachel, qui voit chez cet homme une potentialité incroyable et qui va, en l'épousant, l'amener à devenir une référence absolue dans le peuple d'Israël. Et rappelons-nous, et c'est un enseignement qu'on a déjà une fois partagé ensemble, c'est que lorsque Rabbi Akiba arrive chez lui accompagné de tous ses élèves, de ses milliers d'élèves, ceux-ci ne la connaissent pas évidemment, ils ne savent pas qui est cette femme qui s'approche, Rabbi Akiva les écarte, l'accueille et leur dit cette phrase très simple, « Sheli veshelachem shelahu, ma Torah, votre Torah, c'est la sienne ». Ce n'était pas juste une phrase romantique, c'est une phrase de vérité. Et donc on voit ici ô combien, lorsque Dieu crée l'humain, au masculin et au féminin, eh bien, il nous montre déjà où vont être les enjeux d'une construction harmonieuse qui pourra bâtir véritablement le peuple d'Israël et au-delà de ça, qui sera la source de tout l'équilibre de l'humanité entière.
Amen. Amen. Avec cette idée aussi que... Alors, je ne peux pas relancer le débat malheureusement, mais que Dieu, pour des raisons que vous nous expliquerez un jour, des fois est écrit au masculin, des fois au féminin. Donc ça, c'est vous qui nous expliquerez un jour pourquoi. Ravéli Lemel, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom Mevorach, l'école à Israël, l'école à Israël.
Alors vous à Jérusalem, vous avez vécu de tellement belles choses cette semaine, que nous avons évidemment tous vécu avec vous, mais ouais. Vous voulez revenir un peu là-dessus, en fait. Vous voulez nous dire c'est quoi la notion de recommencement, la notion de régénération. Je ne sais pas comment vous allez nous expliquer ça, mais puisqu'on est sur Bereshit, ce n'est pas un hasard qu'on ait vécu des moments comme ça... qui ferme un cycle absolument dingue avec les otages, et que maintenant, ça y est, on arrive vers Bereshit. Alors expliquez-nous.
En fait, ce qui est absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est, ce cycle qui se termine, qui a commencé à Simchat Torah il y a 2 ans, et qui se termine donc à Simchat Torah 2 ans plus tard. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, d'abord. Et puis, ça se passe aussi, le discours, le jour de Hoshana Rabbah, le discours de Trump, la libération des otages, c'est à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le moment où tout le jugement de Rosh Hashanah et de Kippour s'imprime dans le réel au travers de ces décrets qui sont en quelque sorte envoyés dans le monde, comme on le dit dans notre tradition. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et ce jour-là, on reçoit une nouvelle formidable. Mais ce que ça va recréer chez chacun d'entre nous, c'est enfin on respire. En fait, on est passé d'une position traumatique, maintenant à une position post-traumatique, où en fait on va sortir du trauma collectif et on va avancer vers autre chose. Et c'est absolument extraordinaire de voir que ça se fait avec un retour que personne n'attendait plus, parce que 2 ou 3 semaines avant, je crois que personne d'entre nous n'attendait un dénouement aussi extraordinaire. Alors évidemment, il y a des hommes qui ont participé à tout ça, il faut tous les remercier, mais ce n'est pas le lieu ici. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'Hachem, ici, il nous tend une main et il nous dit « je conduis l'histoire ». Je conduis l'histoire. J'ai créé le monde, c'est par Parashat Bereshit. Mais en fait, le monde, vous les hommes, par votre attitude, par le bien que vous faites dans le monde, vous le recréez. Les Juifs vont accepter de sortir d'Égypte. C'est la deuxième création du monde. Et il y a 2 créations, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Il y a la création du monde, c'est celle qu'on raconte dans Parashat Bereshit, l'apparition de la création, et à l'apparition du peuple juif sur la scène de l'histoire en tant que peuple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rashi dit il aurait fallu commencer la Torah par le premier livre, par la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple, qui est donc la mitzvah de Rosh Chodesh. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est dans cet événement qu'on a vécu, cette sensation de recréation, de revivre. En hébreu, c'est triat ametim, on a réveillé en quelque sorte mort. Le rabbi de Kos qui disait, ce n'est pas tellement une performance de réveiller les morts, c'est de réveiller les vivants. De faire des vivants qui sont des morts, d'en faire des vrais vivants, et d'en faire des gens qui enfin respirent et qui enfin sont capables de vivre dans le monde tel qu'il est. C'est ce qu'on ressent maintenant après cette formidable libération. C'est absolument gigantesque. Notre génération aura mérité de vivre une chose pareille. On n'est pas au bout de nos peines parce qu'on demande le Mashiach, on demande la vraie délivrance. C'est ça qu'il faut demander. Le dévoilement de la royauté d'Hachem, la vraie délivrance, c'est celle-là, pour celle-là qu'on prie 3 fois par jour. Mais en fait, cette délivrance, elle est nichée dans le recommencement. Regardez ce qui se passe. quand Trump a pris la parole à la Knesset, il a dit « On est venu ici pour remercier le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. » Aujourd'hui, le Premier ministre dit régulièrement « Bezrat Hashem avec la Dachem ». Les réseautages eux-mêmes disent qu'ils ont vécu des miracles, qu'ils se sont ancrés dans la foi, dans la Emouna. Dans la commémoration du 7 octobre, on voit apparaître un petit peu partout, sur certaines chaînes de télé, « Be'emouna bacharti », c'est dans la Emouna, la foi et donc l'ancrage dans la réalité du projet divin que je choisis de m'inscrire. C'est ça que signifie tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il y a une recréation du peuple juif. Il y a une recréation spirituelle du peuple juif. Il y a un nouvel ancrage qui n'existait pas il y a quelques mois et qui existe maintenant, un ancrage collectif du peuple juif dans une conscience, la conscience du fait que Hachem conduit son monde, qu'Hachem produit des miracles et qu'en fait, la réalité dans laquelle on vit est une réalité qui prend la forme politique, géostratégique, la forme des lois de la nature, mais qui en fait révèle quelque chose de divin. Et c'est intéressant parce que dans Bereshit, dans le récit de la création, on voit apparaître 31 fois le nom Elohim, un des noms de Dieu, mais qui a la même valeur numérique que Ateva, la nature. Comme pour nous dire que Hachem, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, intervient dans la nature par l'intermédiaire des lois de la nature, en l'occurrence de lois politiques ou militaires ou géopolitiques, mais qu'en fait, on discerne bien que c'est sa main qui gouverne les choses. Et ça, c'est une sensation de sécurité et de force pour le peuple juif qui est absolument extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on a vécu tous en voyant ces événements littéralement hallucinants. On est encore dans la sidération du miracle aujourd'hui, on a du mal à digérer. Bon, évidemment, on va très vite retomber sur terre parce que les autres en face sont des sadiques et des tortionnaires, on voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Mais bon, on a vécu quelque chose de grand, et ça c'est la force du judaïsme de nous enjoindre, de réciter des bénédictions dans les moments de force. Même si on sait qu'on n'en a pas terminé avec l'histoire, on est dans un moment de force. Pour terminer, on ne récite pas le Hallel à Pourim, parce que la libération n'était pas complète. Alors qu'à Pessah, on récite le Hallel, la louange à Hachem, les prières de louange à Hachem, parce que la délivrance était complète. Ici, la délivrance n'est pas complète, on demande la vraie délivrance. Mais en fait, le Hallel qu'on récite, la louange qu'on récite ici à Hachem, elle tient en un mot, Emouna. Et c'est intéressant parce qu'à la fin du traité Makot, il nous est dit que finalement, le principe premier et dernier qui va gérer l'histoire du peuple juif dans la période pré-messianique, c'est Tzadik Be'emouna Tor Yichyeh. Le tzaddik, le juste, il vivra par sa émouna. Si on reste au niveau politique, au niveau géopolitique, on peut devenir un fou et finalement avoir le tournis de tout ce qui se passe. Mais quand on comprend qu'il y a une main qui conduit l'histoire et que cette main, elle se montre dans toute sa grandeur et sa puissance parfois, et qu'on sait la reconnaître, on vit des événements qui sont des événements qui nous donnent beaucoup, beaucoup de force et qui nous empêchent de tomber dans la folie du monde. Voilà ce que je peux dire pour expliquer en tout cas ce qu'on ressent. Et le lien avec la paracha de Bereshit, il est très simple. La paracha de Bereshit est une paracha qui nous montre que celui qui crée le monde est celui qui le gère. Que Hachem ne s'est pas contenté de créer le monde comme disait Voltaire et il s'en est retiré. Il l'a créé, mais il le gère à chaque instant. Rien ne tient sans la volonté d'Hachem. Si vous regardez ce que disaient certains scientifiques sur les dosages de l'univers, il suffirait qu'un milliardaire du milliardième d'événements change, d'éléments changent et tout explose. Et il y a là ici un équilibre qui ne s'explique pas par les lois de la nature, il s'explique parce qu'il y a une main qui est là et qui gouverne le monde. C'est Parashat Bereshit et ça se voit partout.
Bon, il y a quelque chose qui me frappe de manière extraordinaire dans cette libération des otages, c'est quand même c'est ce miracle. Et enfin, je veux dire, on peut pas faire plus éclatant puisque jour pour jour, 2 ans après, ils sont libérés le même jour, Simchat Torah, et dans des conditions comme vous venez de le souligner, totalement inattendues. Moi, en tant que journaliste, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Je vous confirme que la veille de l'annonce, hein, pas la veille de la libération, personne n'aurait pu imaginer c'est demain. Et je trouve que les gens le vivent de manière assez naturelle. C'est ça qui est incroyable. Même moi le premier. Je dis c'est un miracle, mais je dis ça comme une expression. J'ai pas l'impression que j'ai vécu quelque chose. Je suis pas sûr que mon cerveau est capable de saisir l'importance. Même quand je dis importance, ça aussi c'est une expression. L'importance de ce moment.
On a cette expérience. En Baal Anes Makir Beniso. Celui qui vit le miracle, il ne réalise pas toujours qu'il est en train de le vivre. Il faut lui faire prendre conscience. Mais là, ici, c'est autre chose. C'est qu'on est tellement conscient de vivre un miracle qu'on est submergé par l'effet de sidération. C'est ça qu'on vit collectivement aujourd'hui. C'est cette espèce de catharsis, cette purification, cette espèce de bouffée d'oxygène qu'Hachem nous envoie. Où en fait, c'est tellement beau ce qu'on vit. En Israël, d'ailleurs, c'est ce que les gens disaient la veille de la libération. Mais si ça arrive, tant qu'on ne les a pas vus, on ne peut pas croire. Parce que c'est tellement beau et ça finit par arriver. On est tellement dans la sidération de la beauté, de la grandeur, du souffle de cet événement, qu'on est encore dans la respiration de cet événement. Et c'est sur ça qu'il faut remercier Hachem. Merci de nous faire vivre cet instant de bonheur qui nous réunit aussi avec des Juifs de toutes les couleurs, des Juifs de partout qui s'unissent tous ensemble dans cette même reconnaissance et dans ce moment de solidarité, d'affection et de rapprochement. C'est grandiose pour le peuple juif, ça, de vivre après ces années de déchirement. On l'a vécu un instant, c'est un instant, même s'il y a eu quelques-uns qui ont sifflé ceci, cela. Mais quel est le poids de ça face à ce que le peuple juif vit de manière mondiale? C'est ce sentiment de proximité avec ces otages et avec leurs familles, avec les soldats qui sont tombés, les familles, les blessés et tous ceux qui sont directement impactés par cet événement. C'est un moment qui est un moment de délivrance et qui préfigure cet avenir messianique pour lequel on prie. On sera submergé. D'ailleurs, dans le Tehilim, c'est ce qu'on dit. Aïnou Kéchalmim, quand la délivrance va venir, on sera comme des gens qui rêvaient. Le rêve dépasse le désir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le rêve dépasse le désir.
Magnifique. Quelle belle émission, en fait. On en voudrait des comme ça toutes les semaines. Rav Mordechai Bitton, Jérusalem. Amen. Je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors vous voulez vous concentrer vraiment sur un point très précis, il n'y a que les érudits qui peuvent faire ça, c'est sur un commentaire de Rashi. Et sur ce commentaire de Rashi, vous avez noté, évidemment avec les Chachamim, avec vos maîtres, que ce commentaire commence par « Amar Rabbi Yitzhak ». Et vous y voyez une forme, ce qu'on appelle un remez, une allusion, ça y a une raison. Pourquoi il veut faire ça? C'est parce qu'il veut faire allusion à quelque chose de précis, et c'est de ça que vous voulez nous parler maintenant.
Exactement, alors je vous explique. Vous savez que Rashi d'abord, évidemment, est la grande fierté du judaïsme français. C'est vraiment le commentateur le plus étudié dans le monde entier, en étudiant la Torah, en étudiant la Gemara, bref, il est partout présent, dans le Tanakh. Bref, c'est vraiment la fierté de donc c'est très important d'abord de l'étudier régulièrement chaque semaine en étudiant la paracha. C'est un premier rappel à notre chère communauté. La deuxième chose, c'est que le premier Rashi est évidemment une consonance tout à fait incroyable puisque il l'explique en deux mots au nom de Rabbi Yitzhak. Certains disent que Rabbi Yitzhak c'est son père. Le nom de Rashi c'est Shlomo ben Yitzhak. Donc certains disent que c'est son père, d'autres disent que non, c'est un Tana qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Mais il faut savoir que la présentation de ce Rashi est tout à fait exceptionnelle, extraordinaire. Et il ne dit jamais comme ça, il ne s'exprime jamais comme ça. Il dit souvent, la Midrash dit, Midrash Agada, il cite ses maîtres à lui, hein, ses maîtres, il les cite souvent, mais un Tana, citer un auteur de la Mishnah, citer ou de la Midrash, cité comme ça, c'est une fois. C'est unique. Et pourquoi? Alors, certains disent que, comme je dis sous la forme allusive, le Rashi, il veut commencer son commentaire avec un Aleph, puisque c'est Amar Rabbi Yitzhak, donc c'est le Aleph. Et pourquoi il veut commencer son commentaire avec Aleph? Parce que le dernier mot du commentaire de Rashi sur la Torah, c'est un Tav. Et Asher Korar, c'est Shibarta. Shibarta, ça se termine par un Tav. Donc, vous avez compris que si la première lettre, c'est Aleph, et la dernière lettre, c'est Tav, c'est parce que la lettre du milieu sera un même. Donc c'est dans Vaïkra, chapitre 11, vous verrez là-bas, Rashi dit que Gechoncha, le Gachon, ça veut dire le ventre, les intestins, et ça veut dire que tout simplement, il y a des animaux qui sont des rampants, des reptiles, qui rampent donc sur leur ventre, et Rashi dit le mot Me'av, Me'av, ça veut dire ses entrailles. Donc on regarde la lettre même. Donc si on fait la première lettre du commentaire de Rashi sur la Torah, c'est Aleph, celle du milieu, c'est même, et la dernière, c'est Tav, ça donne Emet. Emet, parce qu'effectivement, le sceau de Dieu, c'est la vérité, et surtout parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il y avait une opposition entre deux malachim contre deux. Deux malachim, deux anges, étaient pour la création de l'homme, le tzedek, la justice, et chesed, la générosité. Et puis deux autres étaient contre. C'était le emet, le shalom. Emet, la vérité, shalom, la paix. Celui du emet disait, comment est-ce qu'on peut créer un homme qui sera kulo shkarim, un homme n'est que mensonge. Et l'ange du shalom disait, l'homme est plein de ktata, de disputes. Donc les deux s'opposaient, donc il y avait deux contre deux. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a jeté littéralement le Emet sur terre et il a dit, Emet me'eretz tzmach, la vérité va jaillir de la terre, va pousser de la terre. Alors sous cette forme très imagée, nos sages veulent nous dire que la vérité terrestre n'est pas la vérité absolue. Je m'explique, lorsque Yaakov dit « je suis Esav », on est d'accord, ce n'est pas la vérité, il n'est pas Esav. Mais c'est ce qu'il doit dire à ce moment-là. Lorsque Yaakov, lorsque Abraham, lorsque Kadosh Baruch Hu rapporte les propos d'Abraham et qu'il tronque un petit peu ce qu'a dit Sarah, en ne rappelant pas que Sarah a dit que mon mari est âgé, c'est parce qu'il veut œuvrer pour le Shalom Bayit, la paix dans le ménage d'Abraham et Sarah, là encore, il ne dit pas la vérité. On a le droit de dire qu'une jeune mariée est belle, même si on ne le pense pas. Kala na'a v'chassouda, c'est une belle kala. On a le droit de dire autre chose que la vérité, de dire un mensonge, si c'est pour, évidemment, que son mari soit fier d'être marié avec cette femme. Tout cela, donc, c'est pour le shalom. Pour le shalom, pour la vérité, pour la paix, on a le droit de tronquer un peu la vérité. Mais émettre mes restitutions, ça veut dire en fait le problème, c'est qu'après on peut dire des mensonges tout le temps. Et évidemment, ça c'est absolument interdit. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre une vérité cachère, mais qui n'est pas une vérité absolue, mais une vérité relative, et une vérité qui est absolue, qui est celle des anges et qui est celle que les hommes ne peuvent pas finalement appliquer au quotidien. Donc il y a le Emet, mais Eretz Yitzmar, ça veut dire aussi autre chose, la terre, la vérité va pousser de la terre, c'est aussi lorsque les sages prennent des décisions sur la Torah, de Torah, ils prennent en compte notre réalité terrestre. Sur terre, on a des contingences, des difficultés à appliquer certaines choses, eh bien il faut que notre vérité à nous soit compatible avec la vérité de la Torah, donc le Emet de la Torah, nous permettrait certaines choses que les sages ont décidé d'interdire parce qu'ils ont dit si on permet ça, les hommes vont permettre autre chose. Je peux prendre 50 000 exemples, mais par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit, le poulet. Le poulet, c'est la viande blanche, elle est permise d'après la Torah. Et les sages l'ont interdit parce qu'ils ont dit si on permet le poulet, on va permettre aussi la viande rouge. Et donc les sages ont interdit le poulet avec le lait, le mélange poulet-lait, alors que la Torah l'aurait permise. Et c'est ce qu'on appelle les gdarim, les barrières que les chachamim mettent pour nous protéger d'une transition. Donc tout ça pour vous expliquer que Rashi veut rappeler la notion du Emet. Le mot Emet, Aleph, Mem, Tav, donc la première lettre du commentaire de Rashi, la dernière lettre c'est le Tav, et celle du milieu c'est le même. Et vous trouvez la même chose au niveau de la Torah. La Torah commence les 10 commandements, les paroles de Dieu, c'est Aleph, Anochi. La première lettre de la Mishnah, c'est le même, Me'ematai. Et la première lettre de la Gemara, c'est Tav, de Tana. Donc ça veut dire qu'on a ici Emet, entre les premières paroles d'Hachem au peuple juif, donc « Anochi, je suis Hachem ton Dieu », et le même de Me'ematai, donc la première Mishnah de Berachot, donc la première Mishnah du chasse, de la Mishnah, et puis la première Mishnah mot de la Gemara. Tout ça pour rappeler que le mot « Emet » se retrouve et de nombreuses fois, pour nous dire que tout simplement Dieu, lorsqu'il nous a donné la Torah, c'est pour que nous l'appliquions, mais que nous l'appliquons en fonction de notre réalité d'homme et de femme qui vivent dans un monde compliqué. Et il faut que le Emet soit bien vécu et s'adapte à notre réalité humaine. Donc Emet, mais Retzitzmar. Donc c'est ça en fait le message que Rashi nous dit. Maintenant, je me permets de rappeler que le premier Rashi de la Torah est tellement moderne puisqu'il nous dit qu'à la fin des temps, pas à la fin des temps, pendant longtemps, les peuples du monde contesteront notre droit sur Israël. C'est texto dans Rashi, le premier Rashi de la Paracha, ils diront « Mais pourquoi est-ce que vous prenez cette terre? Il y avait d'autres personnes avant vous, vous les avez volées. » C'est déjà très ancien cette contestation. Et nous répondrons que c'est Dieu qui a créé le monde comme c'est écrit dans Bereshit, et comme c'est lui le patron du monde, c'est lui qui décide de donner Eretz Israël, Eretz Canaan, aux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire nous. Et donc, nous avons un droit sur cette terre. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, les peuples du monde continuent à nous contester notre droit sur notre terre. Mais nous répondons, Bereshit, c'est-à-dire Dieu et le Créateur, c'est lui qui est le patron et c'est lui qui décide à qui donner la terre d'Israël. Et ça, c'était une parenthèse dans mon documentaire. Ce que je voulais surtout, c'est rappeler la notion du Emet, par laquelle nous devons vivre cette Torah, la transmettre, et la Bezrat Hashem, vivre beaucoup de moments de joie, j'espère, cette année. C'est le Shabbat Bereshit, donc le premier Shabbat de l'année. Que tous les Shabbatos de l'année soient sous le signe de bonnes nouvelles, comme nous l'avons entendu cette semaine. Il n'y a que des bonnes nouvelles, c'était, et que nous soyons toujours dans le Emet de la Torah, Emet et Shalom, ensemble, et Emet Meret Ismach, une vérité qui jaillit de la terre. Shabbat Shalom à tous.
Rav Gueh, merci beaucoup et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Et je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré.
Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmari yid, shalom shokat shoy meh.